Le plus grand obstacle que le message de l'Évangile a toujours rencontré et rencontrera sans doute toujours, ce n'est pas la persécution, ni même l'indifférence, mais ce vieux réflexe qui fait que notre nature se cabre et se hérisse quand on lui parle de péché, de culpabilité et de perdition. Lorsque la Bible dit par exemple que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il nous est difficile de nous réjouir spontanément à l'énoncé de cette nouvelle, car nous n'avons guère conscience d'être en péril. Par conséquent, nous avons l'impression que ce message ne nous concerne pas directement. Or, la Bible s'emploie à réveiller notre conscience à cet égard, car elle est devenue insensible par l'accoutumance. Je connais des personnes qui ont la passion des chats. Ils en élèvent une incroyable quantité. Ces animaux vivent là, dans la maison. En entrant, vous êtes suffoqué par l'odeur intolérable qui règne dans cette maison et vous avez du mal à réprimer une nausée. Mais les gens qui vivent là, dans cette atmosphère empuantie, ne remarquent plus cette affection. Ils sont habitués. Ils seraient même profondément surpris et vexés si vous leur disiez « ça sent mauvais chez vous ». Et vous ne pourriez pas les persuader d'aérer leur maison, encore moins de réduire ou supprimer la source de fétidité. En ce qui concerne le péché, j'ai bien peur que l'accoutumance, l'habitude, aient émoussé notre faculté de distinguer clairement, franchement, le bien du mal. Le nombre de choses susceptibles de choquer notre conscience, notre sens de la justice ou même notre pudeur, s'est lui-même considérablement réduit. Se pourrait-il que nous aussi, nous respirions une atmosphère malsaine, viciée, sans nous en rendre compte? Il semble bien que c'est le cas, car lorsque la Bible nous parle de péché, de la nécessité du repentir, nous ne croyons nullement que ce jugement nous concerne. Nous le dévions en direction des autres, en direction des véritables pécheurs. De quoi vais-je me repentir? Je ne fais pas le mal, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, etc., etc. Ça ne sent pas mauvais chez moi, monsieur, vous exagérez et vous m'irritez. N'est-ce pas un réflexe qui vous est familier? Et c'est un symptôme bien précis pour le médecin des âmes. Je vous concède que ce sujet est désagréable. Mais je manquerais gravement à ma vocation et à ma mission si je ne cherchais qu'à vous plaire par de beaux discours. Comment puis-je vous parler de salut si je n'insiste pas d'abord sur la nécessité de ce salut? Comment puis-je vous persuader d'appliquer un remède si je ne vous indique pas auparavant le mal dont vous souffrez, dont nous souffrons tous, et si je ne souligne pas la gravité de ce mal? Deviendrai-je votre ennemi en vous disant la vérité? Mais je suis prêt à courir ce risque, car il n'y a pas de salut sans la conviction du péché. Il n'y a pas de prédication de l'Évangile sans dénonciation du péché. Ainsi, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire tous les hommes, sont sous l'empire du péché. L'apôtre Jean nous prévient que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Non, dit l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ce sont là des textes qui nous accusent. Ils nous disent en quelque sorte, il fait malsain chez vous. L'atmosphère est irrespirable et vous vous asphyxiez lentement. Mais il nous est difficile de nous en rendre compte. Pourquoi? Tout d'abord parce que cette accusation nous déplaît profondément. Elle froisse notre amour propre et nous refusons d'en admettre le bien fondé. Deuxièmement parce que le péché ou le mal est une puissance d'aveuglement et de séduction. Si le mal se présentait sous son vrai jour, avec son véritable visage, nous serions tellement épouvantés que nous ferions tous nos efforts pour le fuir et pour le combattre. Mais il cache sa laideur sous le masque de l'innocence, de l'inoffensif, du divertissant. En outre, on n'entend jamais parler de péché, sauf dans les milieux religieux et encore. Parce que ça met mal à l'aise, ça fait prêchi-prêcha. Alors, on plaisante au sujet d'un péché mignon, d'une mauvaise habitude, d'un travers, autant d'euphémismes pour éviter de désigner et de dénoncer le mal tel qu'il est. Mais que voulez-vous, tout le monde le fait, personne n'est parfait, on a tous ses défauts. Vous voyez avec quelle facilité l'homme peut se séduire lui-même, minimiser le mal et s'innocenter. Et cela surtout parce qu'il voit les choses de l'extérieur, donc imparfaitement. Dans sa parole, Dieu nous prête ses yeux pour que nous apprenions à nous voir tels que nous sommes, tels que Dieu nous voit à l'intérieur, prisonniers de nos habitudes mauvaises, de nos travers, de nos péchés mignons, qu'il appelle le péché tout court. À ses yeux, il n'y a pas de hiérarchie dans le mal. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Ils sont tous une transgression de sa volonté. Ils font tous partie de ce grand mal, de cette grande nuit qu'est la séparation d'avec Dieu. Nous avons pris l'habitude d'envisager le péché sous son aspect flagrant, tel que le meurtre, le vol, l'adultère, etc. De sorte que sous cette forme-là, nous ne nous sentons coupables de vrais péchés qu'occasionnellement. Mais que dire de ce murmure intime et persistant en nous, de cette lente et incessante fermentation empoisonnée que produisent le dépit, la jalousie, l'esprit de vengeance, l'égoïsme, la complaisance en nous-mêmes, la luxure, la convoitise, les idolâtries diverses, l'envie, des vers rongeurs qui détruisent par l'intérieur. Mais nous ne les remarquons pas. Nous ne les remarquons plus parce qu'ils font leur œuvre en silence, sans éclat. Ils ne sont pas flagrants. Ils sont socialement acceptables. Alors ils deviennent de plus en plus gros, de plus en plus entreprenants, et l'on finit toujours par les confondre avec la normale. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mes amis, il faut que nous parvenions à sentir que son opinion, que son diagnostic correspondent à la vérité. Si nous nous entêtons à ne pas nous sentir concernés, nous ne ferons jamais partie de son auditoire. Nous sommes tous atteints du même mal destructeur, à des degrés différents sans doute, mais il finira par nous détruire, tous également, si nous n'appliquons pas le remède que Dieu nous envoie. C'est sur un ton suppliant que nous parle l'apôtre Paul à cet égard. « Dieu était en Christ, dit-il, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le Christ a versé son sang pour les pécheurs que nous sommes. Le remède devait être à la mesure du mal. Allons-nous commettre la folie d'en douter? Ce n'est pas le temps ni notre moralité qui peuvent couvrir notre péché, mais le repentir et le sang du Christ. Voyez comme notre vision des choses est tragiquement différente de celle de notre Créateur. Lui nous envoie son Fils pour mourir à notre place. Nous, nous estimons par notre attitude, par nos hésitations, nos raisonnements, qu'il exagère un peu, que nous ne sommes pas si mauvais que la Bible le prétend, et qu'en fait, le sacrifice du Christ avait peut-être une valeur symbolique, mais qu'il ne peut s'appliquer à chaque individu. Il faut que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, et que nos cœurs comprennent avant que notre vie ne s'achève dans une séparation éternelle d'avec Dieu. Lorsque le roi David, abusant de son pouvoir, prit la femme d'un de ses officiers et, pour mieux camoufler son péché, envoya ce dernier à la mort, il ne fut pas pleinement conscient de l'horreur de son double crime. Il avait cédé à un penchant. De plus, le mari gênant était mort à la guerre. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas dramatiser. La Bible dit que l'Éternel envoya le prophète Nathan vers lui. Le prophète lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » La conscience du roi fut douloureusement réveillée par cette parabole qui venait de dévoiler toute l'étendue du mal qui s'était installé en lui et qu'il essayait de minimiser. Ainsi, lorsque Jésus nous parle du fils prodigue, qui dilapide son bien, ce n'est pas pour nous raconter une belle histoire, mais pour nous suggérer « Tu es cet homme-là, qui gaspille son temps, son énergie, sa santé, ses biens et ses talents, loin de Dieu et au mépris de ses lois. » Lorsqu'il nous raconte l'histoire du pharisien orgueilleux, tout plein de lui-même et tout vide des autres, qui énumère toutes ses bonnes actions, qui n'a rien à se reprocher et qui méprise cet autre là-bas, ce vrai pécheur qui est en train de confesser ses péchés devant Dieu, il nous suggère « Tu es cet homme-là ». Quand il nous parle de la brebis qui s'est égarée et que le berger s'efforce de retrouver car elle est en danger et qu'il l'aime, il veut nous dire « Cette brebis égarée, c'est toi ». Mes amis, il est temps de revenir à notre bon sens. Reconnaissons toute la laideur et la puissance du péché. Ne sous-estimons pas son pouvoir de destruction. Ses signes éclatent partout autour de nous comme autant de fruits maudits. Reconnaissons que nous le portons en nous également et que dans cette mesure nous contribuons à tout le mal qui se fait, à toute la souffrance du monde. Reconnaissons surtout que seul le sang du Christ peut nous purifier de cette souillure, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Je conclurai en répétant ce que l'apôtre Pierre a ordonné à ceux qui avaient compris à quel point ils étaient coupables envers Dieu. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une invitation à recommencer une nouvelle existence en harmonie avec Dieu, éclairée par sa lumière, soutenue par sa puissance et nourrie de sa parole.